Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Nuit russe, nuit de la littérature russe. Oui, nuit russe, nuit de la littérature russe à l'occasion du Salon du Livre de Paris, dont le pays invité d'honneur est cette année la Russie. Une trentaine d'auteurs russes sont présents jusqu'à dimanche soir à Paris, donc à la porte de Versailles. À nous, dans les nuits de France Culture, de célébrer, de faire entendre cette littérature. Mais évidemment, puisque les nuits de France Culture, ce sont des archives aussi, eh bien, les archives qui vont alimenter cette nuit nous feront plutôt vivre le 19e siècle, Pouchkine, Gogol, Tchekhov, mais aussi le 20e siècle, Marina Tsvetaeva et Vassili Grossman. Pour ce qui est de Gogol, on pourra entendre une adaptation des âmes mortes signée Arthur Adamov. Et pour ce qui est de ce qui concerne Tchekhov, une nouvelle très sombre et nocturne, l'envie de dormir. Alors les écrivains russes présents cette année au Salon du Livre sont des écrivains du 21e siècle, ça c'est une la palissade, on sans doute bien vivant et bien traduit, du moins on l'espère, je l'espère, parce que nos deux invités en ce début de nuit sont Laure Troubetskoy. Bonsoir Laure Troubetskoy.
Bonsoir.
Et Hélène Mella. Bonsoir Hélène Mella.
Bonsoir.
Alors, toutes deux, vous êtes, les auditeurs sans doute, spécialistes en littérature russe, traductrice, professeur. Hélène Mella, présentez-vous.
Moi, je suis maître de conférence à la Sorbonne et je suis spécialiste effectivement de la fiction russe contemporaine, donc fin du 20e, début du 21e. Je ne traduis pas, mais j'écris des articles sur la Russie, la littérature donc russe contemporaine et le milieu littéraire, hein, puisque j'ai passé 9 ans en Russie.
Ah oui, vous allez nous en parler de cette période-là. Laure Troubetskoy, vous avez été directrice d'études slaves au Centre Malesherbes à Paris. Je résume, mais vous avez été beaucoup plus.
Je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais j'étais professeur de littérature russe à Malesherbes, c'est-à-dire Paris-Sorbonne, et je suis maintenant professeur émérite, c'est-à-dire que je suis à la retraite.
Et vous êtes aussi la traductrice des lettres à Vera de Vladimir Nabokov, publiée chez Fayard, mais ça, dans quelques semaines, vous viendrez nous en parler dans les Nuits de France Culture, parce qu'on fera toute une nuit consacrée à Vladimir Nabokov. Hélène Mella, vous dites que... Alors, vous avez été chargée de mission, vous, pour le livre et l'écrit à l'ambassade de France,
oui,
à Moscou, mm-hmm, et c'était en quelle année?
Alors c'était 2010-2013 et donc j'ai fait la promotion de la littérature française,
ah oui,
en Russie, alors qu'en France je fais plutôt l'inverse, la promotion de la littérature russe.
Mais alors cette littérature française, mm-hmm, dont vous faisiez la promotion à Moscou, vous auriez pu la traduire ou alors vous aidiez les traducteurs, vous aidiez les éditeurs, comment ça se passe?
Oui, bien sûr, le service culturel de l'ambassade de France, enfin... Aujourd'hui, ça s'appelle l'Institut français, en fait, donne des subsides pour les traductions d'ouvrages d'auteurs français, beaucoup contemporains, mais pas seulement, hein, donc aux éditeurs russes pour effectivement encourager ces éditeurs à traduire et à publier la littérature française.
Alors bon, c'est une nuit russe, on l'a dit et redit, mais quand même, vous pouvez nous dire quelques noms d'écrivains français qui, il y a quelques années, et encore aujourd'hui, j'imagine, Hélène Mella, sont traduits en Russie. En russe.
Oui, bon, parmi les auteurs contemporains, bien sûr, Modiano, Echnoz, des grands noms comme cela. Et puis, on faisait venir des auteurs non traduits également. J'ai eu beaucoup d'auteurs qui ont été invités pour participer au Salon du Livre russe, donc à Moscou, puisque la France a été l'invité d'honneur de deux salons lorsque j'étais à l'ambassade. Donc, j'ai fait venir Véronique Ovaldé, par exemple, vous voyez, des auteurs vraiment contemporains, Régis Auffray, j'ai encore d'autres noms que je pourrais citer, pour justement inciter les éditeurs à les publier.
Mais alors j'imagine que vous avez rencontré des éditeurs écrivains russes à cette époque-là, enfin qui venaient à l'Institut français.
Bien sûr, je les ai rencontrés déjà avant, puisque ma spécialité m'oblige en quelque sorte à les fréquenter, et c'est avec grand plaisir. Et puis surtout, et ayant passé 9 ans à Moscou, pas seulement au service culturel en tant que chargée du livre, mais aussi en tant que directrice du Centre d'études franco-russes, hein, qui est un centre de recherche, j'ai eu l'occasion de participer à la vie littéraire russe, donc de participer à des prix littéraires, de participer au Salon du Livre, de participer à des salons organisés en Russie avec des auteurs russes, comme dans des villes comme Irkoutsk ou Krasnoïarsk en Sibérie. Donc j'ai vraiment fait partie de cette vie littéraire tout à fait passionnante et très vivante dans la Russie d'aujourd'hui.
On recevra dans la nuit plus tard Natalia Turine, qui est éditrice Louison Éditions, oui, et qui tient la librairie, qui est propriétaire de la librairie du Globe, la fameuse librairie du Globe, qui n'est plus dans le 6e arrondissement, mais dans le 3e arrondissement, boulevard Beaumarchais. Donc elle nous parlera de sa production littéraire, éditoriale. Mais vous-même, Hélène Mella, alors, donc, quels sont les écrivains que vous avez pu repérer en ce début de 21e siècle?
En fait, je dirais que j'ai repéré à peu près les mêmes auteurs que ceux qui sont traduits. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, je crois que les traducteurs qui proposent aux maisons d'édition repèrent les auteurs les plus intéressants, disons, qui sont les plus primés en Russie, ce qui est un critère quand même important et à peu près fiable, peut-on dire. On peut toujours passer à côté d'un auteur, bien sûr, mais quand même, c'est un critère intéressant. Donc, en gros, je pourrais vous donner les noms d'auteurs qui sont traduits précisément.
Donnez.
Par exemple, Natalia Turine traduit les auteurs jeunes, disons, la quarantaine, comme...
Alexis Varlamov.
Varlamov, donc, qui est un petit peu plus âgé, mais qui est un pilier, disons, du monde littéraire russe, puisqu'il est le directeur de l'Institut Gorki de littérature, qui forme les écrivains, hein, donc quelqu'un d'intéressant. Roman Sechin, qui fait partie justement de cette jeune génération d'auteurs réalistes et qui se réclame du réalisme. Des auteurs comme, alors ça, c'est édité par d'autres éditeurs français, mais Andrei Gelasimov, qui est très intéressant, publié chez Actes Sud, et Zakhar Prilepin, qui est très connu ici, et bon, qui est très connu en Russie aussi, qui est un personnage, disons, assez intéressant, discutable, mais intéressant néanmoins. Et puis, bien sûr, des grands noms comme Lyudmila Ulitskaya, qui est l'auteur la plus publiée en France et la plus connue, hein, au Salon du Livre, qui a eu lieu récemment à la mairie du 5e arrondissement. Il y avait une queue immense pour sa signature voilà. Et puis, des jeunes aussi. Des jeunes comme Alissa Ganieva, qui vient du Daghestan et qui écrit une prose très intéressante, parce que justement elle mêle deux cultures, la culture proprement daghestanaise, hein, et puis la culture russe puisqu'elle écrit en russe. Voilà. Ou Gouzel Yakina en français, hein, qui vient de Kazan, qui est à Moscou maintenant, mais qui est originaire de Kazan, qui a à peine 40 ans, et donc qui représente aussi une nouvelle génération, et qui évoque dans son roman Zuleika ouvre les yeux sa grand-mère, et donc toute une partie aussi de l'histoire soviétique, hein, à laquelle a participé justement sa famille.
Mais est-ce qu'on peut remarquer, est-ce qu'on peut résumer la production russe contemporaine, Laure Troubetskoy, parce que vous n'avez pas été en poste à Moscou.
Non. J'ai été pour des séjours, mais il y a longtemps, et puis j'y vais régulièrement, mais je n'ai pas eu ces fonctions à Moscou. J'y vais, je fais mon marché, je parle avec mes amis, j'essaie de me faire une petite idée qui est complétée, comme le disait Hélène, par les prix littéraires. Les prix littéraires sont vraiment, bon, il peut y avoir des choses discutables, mais c'est vraiment des critères intéressants. Si on regarde les shortlists des principaux prix littéraires, ça donne déjà une idée. Donc, moi, ce que je dirais, et je ne le déplore pas, c'est que ces dernières années, on est un peu sorti du postmodernisme qui avait complètement envahi le champ littéraire après la chute de l'URSS, qui était bien compréhensible. Il y avait une convergence entre la nécessité d'en découdre avec l'héritage littéraire soviétique et puis la mode du postmodernisme occidental. Alors, c'est des gens qui continuent à publier, qui sont intéressants, Sorokine, Pelevin, qui a encore publié un roman récemment, j'ai vu, mais qui déconstruisaient vraiment l'héritage, le temps, l'espace. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on revient à des choses qui s'inscrivent davantage dans le temps historique, dans l'épaisseur du temps, avec des romans qui peuvent être autobiographiques, surtout chez les jeunes, mais aussi des romans polyphoniques. Et puis alors, beaucoup d'écrivains femmes, il y en avait très peu à l'époque soviétique. Et là, bon, Hélène a cité ces jeunes qui donnent en même temps l'éventail des écritures régionales, Daghestan, Tatarstan. Il y a aussi, je crois qu'elle est aussi au Salon du Livre, Narinay Abgarian, qui est arménienne. Elle a eu un grand succès avec Manyounia, qui était un roman autobiographique, l'histoire d'une petite arménienne, bon, qui n'est pas traduite, je crois, mais elle a deux autres romans traduits. Vous avez, là c'est un homme, le grand représentant de l'Oural, qui vient aussi, qui est Alexei Ivanov, qui a écrit des grands romans sur l'Oural au XVIIIe siècle.
La donc, tradition du grand roman russe
perdure. Ah oui, il y a encore des grands romans. Bon.
Et, au sens dire, où c'est une tradition... somme, voilà, un pavé. Voilà. Mais un pavé, c'est un pavé, c'est très digeste, souvent.
Oui, il y a des pavés tout à fait digestes. Oui. Vous savez, ce genre de livre, quand on voit qu'il ne reste plus beaucoup de pages à lire, on se sent tout triste. Et alors, soit des grands romans plutôt linéaires, comme chez Ivanov, soit des romans polyphoniques qui tressent ensemble tout sortes de voix comme Chichkine, dont j'ai traduit le Cheveux de Vénus, ça fait déjà une petite dizaine d'années, et qui a écrit ensuite un roman qui a été traduit sous un autre titre parce que ça passait pas en français, ça s'appelle 2h-10, qui joue aussi avec les voix et les époques, puisque c'est la correspondance entre deux jeunes gens. Au début, lui part dans un corps expéditionnaire russe en Chine pour la guerre des, à l'époque de la guerre des boxeurs. Elle reste en Russie et au fil de la correspondance, on s'aperçoit que le temps ne se déroule pas à la même, au même rythme pour les deux. Bon. Donc il y a cette tradition-là. Et il y a, je peux prendre un exemple d'un écrivain que je suis, que j'aime bien que sa production soit irrégulière, c'est Eliana Tchijova, dont Le temps des femmes a été traduit en français. Et c'est un exemple à la fois d'une écriture féminine, tous ces personnages sont des femmes, d'un retour sur le passé soviétique avec plusieurs générations de femmes dans un appartement communautaire à Saint-Pétersbourg et donc de cette écriture polyphonique qui mêle plusieurs voix.
Alors on est à Leningrad aussi dans ces romans alors, si on est dans la période
Ah oui, pour l'époque de...
Non mais ça doit jouer aussi, c'est-à-dire les noms évidemment, les noms de lieux jouent bien beaucoup sûr dans un roman, donc là on parle de Leningrad,
Oui, Leningrad, c'est vrai que c'est, bon, c'est le passé, Leningrad.
Il y a un romancier qui s'appelle Boris Akounine. Est-ce que, alors, laquelle d'entre vous veut en parler ou ne pas en parler? Hélène Mella.
Oui, je veux bien. Boris Akounine, c'est un phénomène très intéressant. Bon, ce qui a été aussi très notable dans les premières années post-soviétiques, donc les années 90, c'est l'émergence de la littérature populaire, la littérature de masse, comme on dit là-bas. Donc, de romans policiers, bon, qui existaient bien entendu pendant la période soviétique, mais beaucoup moins variée et beaucoup moins mise en valeur, disons. Hein. Le roman policier sous toutes ses formes, le roman à l'eau de rose, féminin, qui n'existait pratiquement pas pendant la période soviétique, et la science-fiction qui existait, bien sûr, qui était même très, très forte en Union soviétique, et puis la fantasy aussi. Donc tous ces genres-là ont acquis vraiment leur lettre, je dirais, de noblesse, mais bon, en même temps, elles sont très méprisées par les intellectuels. Et justement, Boris Akounine est un exemple de grand intellectuel. Hein, c'est un monsieur spécialiste du Japon qui travaillait dans une revue tout à fait sérieuse qui s'appelait La littérature étrangère et qui a écrit donc une série de romans policiers qui lui a acquis un énorme succès, donc la série des Fandorine.
Eraste Petrovitch Fandorine.
Ouais. Voilà, c'est le héros, donc un héros tout à fait nouveau pour la littérature de romans policiers russes, puisque c'est un dandy, donc fin 19e, et un homme accompli physiquement, et bon, très intéressant comme type.
Qui a un certain nombre de personnalités, parce qu'en fait, il est à la fois Rouletabille, Fandor, alors Rouletabille,
tout à fait.
On sait où on est, Fandor, on est chez Fantomas,
et oui,
l'idée de cet écrivain, donc Boris Akounine, c'est d'écrire des romans policiers, chaque fois différents, en tout cas en se mettant dans la peau ou dans le style policier roman.
Voilà, il reproduit, il n'invente rien, il reproduit des schémas de romans policiers, effectivement, du 19e siècle, que ce soit le roman anglais ou français, et il le transporte sur le terrain russe. Et en Russie, ça se passe en Russie avec des personnages historiques réels, le tsar Nicolas II, bon, etc. Et ça donne un mélange tout à fait inédit et intéressant. Et bon, il a plusieurs autres séries. Il a. C'est ce qu'il appelle un projet culturel, un projet. Donc il a à l'avance décidé donc de faire du roman policier à l'ancienne.
Avec des contraintes, enfin des
voilà, un petit peu, voilà, exactement.
Un peu l'Oulipo.
Exactement, des modèles à suivre. Et donc bon,
et c'est traduit en France.
Et c'est traduit en français.
18, collection Grand Détective.
Voilà, c'est une qualité de langue exceptionnelle. Enfin, je veux dire, pour le roman, disons, populaire, c'est une très bonne qualité de langue. Et donc, il réconcilie un peu, si vous voulez, les intellectuels russes avec le genre du roman populaire.
Et vous, Laure Troubetskoy, est-ce que vous daignez lire ces romans-là, vous, spécialiste quand même 19e, 20e siècle, Bulgakov
Tout à fait. Je vous dirais pas que je les ai tous lus, mais d'abord, c'est vrai que je me suis jetée dessus lorsqu'ils ont commencé à paraître parce que c'était tout à fait nouveau. Et ça se lit à deux degrés. Ça peut se lire comme un roman policier avec l'intrigue. Bon. Mais il y a des tas de clins d'œil, de réminiscences littéraires. Et puis alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a continué et ensuite il a fait intervenir un ancêtre de Fandorine venu en Russie au XVIIIe siècle. Et donc, c'est l'étranger qui se trouve confronté à cette Russie bizarre. Et puis, il y a aussi un descendant de Fandorine, son petit-fils ou son arrière-petit-fils, qui, lui, est d'une famille qui a émigré aux États-Unis et qui revient en Russie tout aussi bizarre à ses yeux. Donc, il le module autour du personnage principal. Et il y a aussi une série avec une nonne, Pélagieille, oui, qui est une nonne enquêtrice. Donc, ça, il a créé vraiment tout un univers avec ces personnages de référence que tout le monde connaît.
Et c'est très lu en Russie.
Oui,
oui, c'est très lu. Ça a été beaucoup lu, évidemment, dans les années 90, au moment où c'est apparu, puisque, comme dit Laure, c'était tout à fait nouveau. Mais bon, ça continue. Mais disons que la nouveauté est passée. Mais
On est sûr que ça pouvait pas être une littérature qui aurait pu être éditée sous Brejnev, par exemple.
Le roman policier n'était pas très bien vu parce que le roman policier met le doigt sur les défauts à la fois de la société ou de personnages. Or, dans la société idéale qui avait été bâtie, bien sûr, il n'y avait pas de problème. Donc, disons qu'il y avait quand même quelques auteurs de romans policiers, mais qui travaillaient surtout sur l'espionnage, voilà, comme Yulian Semyonov, hein, qui était très très connu, mais qui travaillaient sur le terrain russe avec bon des modèles plutôt soviétiques, disons, hein, de pensée et littéraire.
En revanche, donc, il y avait beaucoup de romans d'anticipation.
Oui, parce que la science-fiction ou l'anticipation est parfaite pour critiquer un régime. Simplement, ah oui, mais
c'est aussi dangereux que le roman policier, alors.
Non, parce que si ça se trouve sur une autre planète, on critique un autre régime que le régime présent. Et puis, évidemment, entre les lignes, on comprend que la critique peut concerner le pays actuel, hein, mais... Bon, disons que c'est une manière de déguiser la critique qui a été très utilisée, qui a été utilisée aussi par les écrivains qui écrivaient des romans historiques. Hein, on critique l'autoritarisme de Louis XIV, par exemple, et en filigrane, on voit l'autoritarisme de Staline ou autre.
Alors, Lortrobeskoy et Hélène Mella, il y a une question beaucoup trop personnelle peut-être que je vais vous poser, mais quand on s'est intéressé depuis sa jeunesse et qu'on s'intéresse toute sa vie de professeur ou de traductrice à la littérature russe, est-ce qu'on doit nécessairement avoir une parenté russe, c'est-à-dire qu'on a un grand-père russe, une mère russe, il y a des Françaises et Français 100% qui découvrent soudain la Russie, la littérature russe, comme une terre à découvrir.
Oui, moi, malgré mon nom russe, qui est celui de mon mari, je suis tout à fait française. Mais
vous êtes intéressée à la littérature russe avant de rencontrer votre mari, si je puis me permettre cette question.
Bien avant.
Trop personnel.
J'ai commencé le russe en quatrième. C'était la première année. J'étais au lycée de Sèvres. C'était la première année où était créé un enseignement de russe.
Avec le David et Polia, non? David Doff et Polia.
Mais surtout, mon professeur de russe, que j'ai eu jusqu'à la terminale, qui était quelqu'un d'absolument remarquable, qui s'appelait Lida Vernon, et qui était l'épouse du philosophe Jean-Pierre Vernant. Et du reste, le lycée de Sèvres porte maintenant le nom de lycée Jean-Pierre Vernant. C'était quelqu'un qui savait communiquer sa passion pour la culture russe, la littérature russe, et elle a suscité plusieurs vocations. Et donc, ça a commencé comme ça. J'aimais les langues. Le russe, c'était évidemment plus original que l'anglais. Et voilà.
En deuxième langue, on faisait russe.
Et oui, oui. Et ensuite, j'ai permuté les deux langues pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Laquelle école m'a permis ensuite, justement parce que c'était dans le cursus, de passer deux ans, enfin deux fois 10 mois en Russie. Leningrad à l'époque.
Ah, je ne veux pas vous vieillir.
Et Moscou, donc voilà comment ça a commencé.
Mais quand on apprend le russe comme ça, donc on passe 5 ans au lycée avec son Davidov et Polia, je connais.
Au bout de 5 ans, on sort du Davidov et Polia quand même.
On en sort, mais comment en sortir? Parce que finalement, quand même, la littérature, c'est très compliqué. Au bout d'un an ou deux, on peut raconter qu'on va ramasser des champignons, que notre père est ingénieur dans un kolkhoz, des choses comme ça. Mais comment, vous étiez excessivement doué pour les langues, Lord Trubetskoy, donc.
C'est ce que je préférais, donc évidemment c'est là que je m'investissais, et c'est vrai que bon, moi j'aimais ça, on apprenait le vocabulaire, j'avais ce que les étudiants semblent ignorer maintenant, c'est un carnet de vocabulaire, tout simplement, où on note, hein. Et c'est vrai qu'avec Lida, elle était pas très portée sur la grammaire, mais on lisait des extraits de Jane Onegin en troisième. Ça s'est fait comme ça. Et il y avait beaucoup d'élèves très intéressés, il y avait une émulation. Et puis c'était l'époque du dégel, donc il y avait tout autour un intérêt pour l'Union soviétique qui portait aussi un peu ça.
Hélène Mella ?
Alors moi, je suis l'autre cas de figure. Donc malgré mon nom français, je suis d'origine russe.
Vraiment, c'est incroyable, on ne s'y retrouve pas. Hein. Lord Trubetskoy est française, Hélène Mella est russe.
Mon grand-père et ma grand-mère maternelle étaient des Russes blancs, donc sont arrivés après la révolution et la guerre civile, donc dans les années 20. Ma mère est née en France déjà, et malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père et ma grand-mère, donc je n'ai pas parlé parler russe étant petite, mais je l'ai appris comme l'or en quatrième. Alors moi, j'ai eu beaucoup de professeurs, mais qui étaient tous tout à fait agréables et sympathiques, et j'étais bonne en langue, et j'ai fait de l'allemand et du russe, et donc au lieu de choisir l'allemand, quand il a fallu choisir une spécialité, eh bien j'ai évidemment, logiquement, choisi le russe. Et moi aussi, j'avais des carnets de vocabulaire, j'ai appris des tas de listes, et voilà.
Vous étiez d'excellentes élèves, l'une et l'autre.
Oh oui, j'étais bonne en langue, oui.
Alors donc, on peut, pour apprécier la littérature russe contemporaine, puisque voilà, c'est le salon du livre, les auteurs, des auteurs russes sont à Paris jusqu'à dimanche soir, ou lundi peut-être, c'est quand même la littérature très contemporaine, mais est-ce qu'on peut oublier, est-ce qu'on doit oublier la littérature que l'on a lue, que ce soit au lycée ou qu'on l'ait lue en français pour commencer, en russe ensuite, cette littérature 19e, 20e ou avant? Et les comparaisons se font évidemment.
Mais oui, pourquoi est-ce qu'il faudrait oublier? Au contraire, même si, bon, on sait que l'histoire de la Russie et donc de la littérature russe est faite de ruptures successives, mais
les âges,
oui, d'or, d'argent, il y a une continuité. Et c'est bien sûr l'héritage continue à nourrir, parfois sous des formes très originales. Il y a par exemple au salon du livre Charov, j'ai oublié Vladimir, je crois, Vladimir Charov. Alors il a au moins un roman publié en France, sur les nénettes, les violences qui ont été faites aux nénettes, c'est-à-dire ces peuples du Grand Nord au 19e siècle, soyons comme les enfants. Mais il a écrit un énorme roman publié récemment en russe, qui n'est pas traduit, je ne sais pas s'il le sera, qui s'appelle Le Retour en Égypte. Alors, ça se présente comme un ensemble de lettres échangées par plusieurs descendants fictifs des sœurs de Gogol, qui sont restés en contact à travers les vicissitudes de l'histoire. Les lettres ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais on peut reconstituer le puzzle. Alors il y a déjà toute l'histoire de cette famille à travers les années soviétiques. Il y a une espèce d'utopie familiale qui consiste à achever les âmes mortes de Gogol, dont on sait que c'est un roman inachevé, dont il n'a pas pu écrire la troisième partie.
Et qui aurait pu être brûlé.
Oui, dont il a brûlé la deuxième partie parce que il se croyait possédé par le diable puisqu'il savait écrire, dépeindre tous les défauts, mais quand il s'agissait de montrer la voie de l'idéal, là, évidemment, c'était plus difficile. Donc, cette utopie familiale, et il pousse, il y en a un qui s'appelle Nikolai Vassilievitch Gogol II, qui doit écrire, qui évidemment ne l'écrira pas. Bon, et la troisième ligne, c'est toute une échange de ses descendants, donc sur le thème de destinée de la Russie, à travers la grille de lecture de la sortie des Hébreux d'Égypte. Vous avez la fuite d'Égypte, c'est-à-dire le refus de l'État, des institutions, de la soumission liée à la tradition des sectes russes qui fuient l'État. Et la tentation du retour en Égypte, c'est-à-dire le confort de la soumission, etc. Donc, vous voyez que c'est un roman qui tourne autour de la figure de Gogol, mais qui en même temps fait quelque chose de tout à fait différent et original.
Et de l'émigration aussi, non?
Non,
ou de retour, non?
Non, c'est parce qu'ils sont tous restés en Union soviétique. Non, c'est vraiment l'idée du retour à un État autoritaire et confortable.
Alors, les quelques romans russes contemporains qu'on peut lire, enfin, il y en a quand même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui font ce travail avec des très bonnes traductions. Enfin, j'espère qu'elles sont excellentes. Lord Trubetskoy, vous remarquez parfois de bonnes traductions, d'excellentes traductions ou de pas bonnes traductions?
Mais le problème, c'est que je ne lis pas beaucoup de traductions, évidemment.
Ah, bien sûr.
Je ne lis...
En russe.
je lis toujours en russe, bien sûr. Mais bon, je sais qu'il y a de très bonnes traductions. Mmh.
Ouais. Alors, donc, non pas la surprise, mais en tout cas, l'observation que je peux faire, qui est peut-être tout à fait fausse et incomplète, en tout cas, c'est qu'il est toujours question de la Russie. Du pays, de la Russie, de la alors elle est sainte ou ex-sainte Russie, ou voilà. Et finalement, quand on imagine ces lectures des grands romans français, il n'est pas tellement question de la France. Enfin, c'est de la société française peut-être, mais pas de la. Il n'y a pas des personnages qui sont en train de rêver à la France.
Et oui, mais les Russes ont toujours mal à la Russie, ou en tout cas, c'est vrai que, bon, qu'est-ce qu'être russe, où va la Russie, où sont nos racines, c'est... Enfin, c'est pas forcément une interrogation des personnages sur la Russie. Par exemple, le dernier Booker russe a été attribué à un roman qui s'appelle La Forteresse.
C'est le grand prix littéraire.
Oui, c'est le grand. Il y a maintenant plusieurs grands prix littéraires. Bon, il y a le Booker, le best-seller national et Balshaya Kniga, le grand livre, mais le Booker historiquement est le premier. Et Piotr Alechkovski, La Forteresse. Et l'histoire se passe dans une petite ville de province russe qui a une forteresse médiévale. Le personnage principal est un archéologue. Et alors on voit toute la vie locale, y compris l'industriel russe qui est le mécène, mais aussi le satrape local. Vous avez une scène de chasse aux sangliers qui est quelque chose. Et l'archéologue dépend de subventions, donc il est en conflit avec son collègue. Donc il y a tout ce côté vie locale qui est montré de façon très réaliste. Et puis il y a toute cette question du passé russe, comment le mettre en valeur, qu'est-ce que ça peut signifier. Donc, c'est pas une interrogation directe sur les destinées de la Russie, mais c'est vrai que le passé et l'identité russe sont présents.
Et l'amour pour la patrie,
oui.
Qui n'a peut-être pas toujours...
Non,
dans...
c'est pas la patrie, là, non. C'est plutôt un problème d'archéologue, de conservateur. C'est pour ça que ça renouvelle cette thématique, parce qu'il y a aussi cet aspect, comment mettre en valeur un monument ancien.
Et vous, Hélène Mella?
Oui, il y a beaucoup en fait d'ouvrages qui réfléchissent un peu sur le passé récent ou le passé soviétique ou le passé même d'avant. Disons que le vecteur de la littérature russe contemporaine est quand même assez tourné vers le passé et effectivement concentré sur la Russie, mais de manière plus ou moins actuelle. Donc on a beaucoup de sagas historiques, par exemple Ludmila Ulitskaya, le cas du docteur Koukotsky, ou Vassili Aksionov, la saga Moscovite par exemple, qui retrace l'histoire d'une famille à travers les péripéties et les difficultés, disons, du XXe siècle soviétique. Et effectivement, la tradition est présente, mais il y a un jeu avec cette tradition, comme l'a dit Laure. Je pense à un roman de Olga Slavnikova qui s'appelle 2017, qui se passe dans l'Oural et qui convoque à la fois les contes de la région, hein, avec un personnage qui s'appelle la maîtresse de la montagne de cuivre, qui est une figure légendaire dans les montagnes, qui met en même temps en scène des cristalliers, donc des hommes qui cherchent les pierres précieuses et semi-précieuses, et le monde très contemporain, donc des femmes d'affaires, etc. Et donc cette tradition, hein, la légende un peu mystique, est finalement très liée et un peu désamorcée par le portrait de la Russie contemporaine. Donc vous avez ces deux mouvements en fait, et de plus en plus d'ailleurs les auteurs se concentrent sur la société contemporaine aussi.
Il y a beaucoup de maisons d'édition donc à Moscou, enfin
oui, énormément,
et une grande liberté, enfin une liberté totale.
Absolument, ou... absolument. Donc là, c'est une nouveauté du marché capitaliste de l'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition, alors qu'il y en avait tant de l'Union soviétique, 200-250 maximum, et qui étaient toutes d'État. Aujourd'hui, elles sont pratiquement toutes privées et il y en a plusieurs milliers. Ce qu'on remarque évidemment au bout de 25 ans de ce type de fonctionnement, c'est qu'on a quelques grosses maisons d'édition qui commencent à manger les plus petites. Donc on a ce phénomène darwinien qui est assez classique comme cas de figure. Mais il y a toujours des petites maisons indépendantes qui cherchent à publier des auteurs complexes, hein, des auteurs donc non commerciaux. Vladimir Charov en est un exemple. C'est très varié, mais c'est concentré essentiellement sur Moscou.
Alors, Laure Troubetskoï, vous, depuis Paris, comme ça, avec votre flair, vous allez vers quelle maison d'édition? Vous savez que vous connaissez les toutes les maisons d'édition
vous... Non, bien sûr que non.
Vous savez, par exemple, que certaines maisons d'édition ne correspondent pas à vos goûts littéraires. Enfin...
Oui, mais enfin, bon, c'est plutôt l'œuvre. Et puis, ça... et puis, il y a une chose qui a subsisté de l'époque soviétique, c'est ce qu'on appelle les grosses revues. Qui était vraiment le centre de la vie littéraire à l'époque soviétique et même sous l'Ancien Régime, puisque toutes les œuvres littéraires importantes ont déjà paraissaient d'abord dans les grosses revues, en feuilleton. Voilà.
Et ça continue ça, là.
Alors, au moment de la perestroïka, on s'est dit, ça y est, c'est la mort des revues. Bon, mais finalement, elles subsistent. Et elles ont rebondi grâce à Internet, parce que vous pouvez encore quand même lire en ligne un certain nombre d'œuvres qui paraissent actuellement, d'abord en revue. Donc, ça donne un poste d'observation supplémentaire.
Alors, donc, vous, Laure Troubetskoï, et vous, Hélène Mella, vous lisez en russe. C'est une supériorité sur les lecteurs français qui ont moins de livres à lire, encore que la production soit importante, et heureusement. Mais qu'est-ce qui peut freiner la lecture d'un Français qui n'a pas fait de russe, ou même s'il en a fait, voilà. On dit toujours, c'est les noms à rallonge, et ça, c'est vrai. On peut s'y perdre un peu. Alors, vous faites un regard de Justine, mais ça arrive quand même. Quand on a une ligne entière pour un personnage, qui 10 lignes plus loin est surnommé, et non plus nommé, alors on peut s'y perdre un petit peu.
Oui, mais je comprends tout à fait, parce que j'ai toujours eu du mal avec les noms propres, et quand je lis un roman portugais, ou c'est vrai que j'ai du mal à mémoriser les noms. Mais d'abord, il y a des romans où les personnages sont anonymes. par exemple, le grand roman de Chichkine dont je parlais, Le cheveu de Vénus, le héros
publié,
principal est traducteur, chez Fayard.
Chez Fayard.
Et le héros, je ne vais pas raconter parce que c'est compliqué, mais le héros à l'origine est traducteur et il est désigné par le vieux mot Talmatch, que j'avais traduit par le drogman, parce qu'il fallait un vieux mot. Bon, et il n'a pas de nom, donc ça c'est un avantage. Dans l'un des romans de... que je voudrais traduire, d'ailleurs, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, de Tchijova, là, il y a deux personnages principaux, c'est lui et elle, qui n'ont pas de nom. Donc,
On, Anna.
Voilà. Donc, et puis, alors parfois, quand c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de noms, les éditeurs français mettent une liste à la fin.
Ah oui, c'est ça. Bon, pour les Français aussi, et pour les romans français, parfois, on nous donne la liste des personnages pour qu'on s'y retrouve.
Bon, mais je pense pas que ce soit un gros handicap.
Et puis on aime bien se perdre évidemment dans une autre langue, puisque ce qu'on lit, un roman traduit, on le lit en français en l'occurrence, mais on aime bien ces moments qui sont russes.
Oui, dans le Docteur Jivago, ou alors là, il y a je ne sais combien de personnages, et il y a la liste de tous les personnages avec leur surnom. C'est vrai que ce qui peut dérouter un Français, c'est cette façon de donner des surnoms, et des surnoms à rallonge, et avec toutes sortes de variantes. Bon, c'est ça.
Ça fait partie du plaisir. Donc,
oui, je pense que ça fait partie du charme pour les lecteurs francophones qui ne savent pas le russe.
En tout cas, ce qu'il faut faire ce week-end, c'est donc, si on est à Paris, aller au Salon du Livre, puisque, encore une fois, le pays invité d'honneur, c'est la Russie. Une trentaine d'auteurs, vous allez dès demain, j'imagine, ou dimanche, courir voir des auteurs. Peut-être que vous les connaissez, vous ne les aimez peut-être pas tous, mais vous allez quand même leur parler. Comment ça se passe ?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, je ne les aime pas tous, mais ça fait partie du travail, bien entendu, oui. Bon.
Eh bien, nous, pour l'instant, on vous retrouve en fin de nuit, Laure Troubetskoï et Hélène Mella, mais on va partir dans le 19e siècle. On va, un petit peu de Pouchkine, un petit peu de... Écoutez, ça sera la surprise pour les auditeurs.